Il a dit qu'il avait une fille pour tourner un porno, que ça allait lui rapporter un paquet de fric. Et tu t'es dit que ça pouvait être lié? Déclara Paris d'un ton sarcastique. Hé, ça devait être il y a un mois. Je suis juste en train de bavarder avec lui et il me dit qu'il a peut-être une fille pour un film porno. Il n'a pas parlé de sa sœur, il a simplement dit ça. C'est quand j'ai appris qu'il s'était fait tuer et que sa petite sœur avait elle aussi été tuée que je me suis demandé si c'était d'elle qu'il parlait. Et si c'était le cas, eh bien, alors, quelque chose a dû aller de travers. Un putain d'euphémisme, Larry. Larry Temple baissa de nouveau la tête. Donc, à qui Danny Lange a-t-il pu s'adresser s'il voulait embarquer sa sœur dans ce merdier? Vous le savez aussi bien que moi, répondit Temple. Il ne s'agit pas d'un petit caïd à la con, Larry. Il s'agit de quelqu'un qui est suffisamment impliqué dans ces saloperies pour tuer deux personnes. Comment voulez-vous que je le sache? Parce que c'est ton univers, Larry, c'est ton truc. Ce sont les gens avec qui tu traînes, les autres pervers qui regardent. C'est une maladie, coupa Temple. Il semblait déconcerté et vexé. C'est une maladie mentale. Une chose avec laquelle on est. Ce n'est pas une chose qu'on déclenche ou qu'on arrête quand ça nous plaît. Ne cherche pas à me faire chialer, Larry. Dis-moi simplement à qui Danny Lange a pu s'adresser. Je ne sais pas, inspecteur Paris, je sais vraiment pas. Je vous ai dit tout ce que je savais. Et je ne sais rien de plus. Je ne fréquente plus trop ce milieu. Les choses ont changé. Parrish resta un moment silencieux. Il croyait Larry Temple. À cause de quelque chose dans son expression, quelque chose dans ses yeux. Il avait vu assez de menteurs pour savoir à quoi il ressemblait. Et il savait comment était Danny Lange. Il savait qu'il était comme tant d'autres. De grandes idées, que de la gueule. Je fais ceci, je fais cela, aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui j'ai quelque chose, aujourd'hui je change de vie. Mais rien ne changeait jamais. Rien ne changerait jamais. L'addiction était trop forte. Parrish croyait-il que Danny Lange avait pu vendre sa sœur pour tourner un porno? Oui. Croyait-il que Rebecca avait pu être partante? Que Danny l'avait convaincue que c'était cool? Qu'elle se ferait de l'argent? Qu'elle verrait son nom en lettres de lumière? Bien sûr. Ça modifiait sa perception d'elle. Mais il n'était pas étranger à ce genre de phénomène. Ça arrivait tout le temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle finit morte? Soit Danny réclame son argent, soit il cherche à prévenir les flics, et il se fait buter à son tour. Parrish se leva. Temple le regarda, s'apprêtant à se faire frapper. Les coups n'arrivèrent pas. Si tu apprends autre chose, préviens-moi, dit Parrish. Tu sais comment me contacter. Si j'apprends que tu ne m'as pas tout dit, je reviens ici, et cette fois, je ne frapperai pas à la porte, pigé? Temple ne répondit rien. Mais il était clair à ses yeux qu'il saisissait le message. Parrish ouvrit la voie, marcha sans un mot jusqu'à la cage d'escalier, et c'est Radic qui parla le premier. Vous croyez qu'il nous a dit tout ce qu'il savait? Oui, je crois. Il connaît les mêmes noms que moi. Je ne crois pas qu'il y ait un gros poisson dont il connaîtrait le nom et pas nous. Alors, partons commence. Je veux tout d'abord retourner au bureau, répondit Parrish. Je veux voir les résultats des tests toxicologiques avant toute autre chose. Chapitre 26. Les tests toxicologiques du sang et de l'urine de Rebecca Lange étaient négatifs. Mais ils étaient accompagnés d'une note qui disait qu'un échantillon de cheveux avait été prélevé et serait analysé avant la fin de la journée. Parrish était assis à son bureau, conscient de la pile de dossiers dans son tiroir, éprouvant un sentiment d'urgence, un besoin de regarder plus loin, de creuser plus profond. Il devait vérifier s'il existait un lien entre les services pour l'enfance et Jennifer Bauman et Nicole Bénédicte. Il n'avait aucun doute quant à la compétence de Hayes, Welland, Engel ou West, mais ils avaient facilement pu négliger cet aspect de l'enquête s'ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Le plus infime fragment d'information pouvait totalement modifier votre perspective. Parrish regrettait de ne pas avoir été en possession de ces noms quand il s'était rendu aux archives des services pour l'enfance. C'était le genre de recherche qui prenait du temps, mais il ne voulait pas trop impliquer Jimmy Radic. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas quelque chose de plus concret. Il lui était trop souvent arrivé de faire une fixation sur une affaire, de tirer une conclusion hâtive, de s'obstiner dans une direction pour découvrir que son imagination trop fertile lui avait joué des tours. Cette fois-ci, il ne voulait pas suivre cette voie. La discrétion et le tact n'avaient jamais été ses points forts. Mais vu le climat actuel, il devait se montrer prudent s'il voulait éviter de s'attirer des critiques et des sanctions supplémentaires. Soit il avançait prudemment, soit il recevait une suspension officielle. Il avait cinq affaires en cours. Les meurtres de Danny et Rebecca Lange, celui de la prostituée, le type qui avait été poussé sous le métro, et celui qui s'était fait poignarder sur le campus. Les trois dernières étaient au point mort. Et pourtant, Parrish n'éprouvait aucun besoin de se pencher dessus. Il se demanda pendant un moment s'il pourrait convaincre Radic de les reprendre seul. Mais il savait que ça ne se passerait pas. Outre celui de Rebecca, c'étaient les premiers meurtres qui l'intéressaient. Ceux de Karen, Jennifer et Nicole. Ce qui faisait en tout quatre filles, deux âgées de 16 ans, deux de 17. La première, Jennifer, avait été retrouvée en janvier 2007. La deuxième, Nicole, en août de la même année. Karen avait été retrouvée en décembre. Et finalement Rebecca. Karen portait des vêtements qu'elle n'aurait normalement pas portés. Et Rebecca avait eu les cheveux coupés et les ongles vernis. Parrish ne savait pas grand-chose sur les deux autres, si ce n'est que Jennifer avait été retrouvée dans une chambre de motel, et Nicole dans une housse de matelas avec le cou brisé. Les circonstances de leur disparition avaient été aussi anodines que pour Karen et Rebecca. Elles étaient simplement allées quelque part et n'étaient jamais revenues. Elles avaient été retrouvées mortes dans les trois jours. Parrish conseilla à Radic de commencer à se familiariser avec les différents types de rapports qui devaient être rédigés pour les affaires en cours. Pendant ce temps, il passa deux heures à examiner de nouveau les dossiers. Les gribouillis caractéristiques de Wayland, les notes cryptiques d'Engel que lui seul parvenait à comprendre, c'étaient des affaires standards. Enquête de voisinage, rapports préliminaires, autopsie, interrogatoire des amis et de la famille. Les rapports d'autopsie intéressèrent particulièrement Parrish. Jennifer et Nicole avaient toutes deux été découvertes dans les 24 heures qui avaient suivi leur décès. Jennifer avait été tuée par strangulation, apparemment manuelle. Et Nicole avait eu la nuque brisée de façon nette entre la deuxième et la troisième vertèbre. Comme si elle avait été pendue, avait noté le légiste. Mais il n'y avait aucune des abrasions externes ni aucune des marques de ligature qu'aurait laissé une corde. Une contusion sévère sur le côté droit de la tête de Nicole suggérait qu'elle avait été frappée avec quelque chose ou contre quelque chose, suffisamment fort pour que son cou se brise. Le légiste avait opté pour « contre », pour la simple raison qu'il n'y avait pas de renfoncement au niveau de la blessure. La contusion montrait juste un impact plat et régulier, comme si on lui avait frappé la tête contre un mur. Cependant, c'était la blessure au cou qui avait provoqué la mort des deux filles, des quatre filles. Les dossiers ne contenaient aucune allusion à leur tenue, ni à d'éventuelles modifications de leur apparence, ni à quoi que ce soit qui aurait permis à Parrish d'établir un lien avec les autres affaires. Bien sûr, de tels détails avaient pu être présents, simplement personne ne les avait remarqués. Ce ne furent donc pas ces signes extérieurs qui attirèrent son attention, mais d'autres similarités communes aux quatre affaires. Tout d'abord, il y avait la taille des filles, leur poids, leur couleur de peau et leur âge. Puis le fait que chacune avait eu un rapport sexuel peu de temps avant sa mort, sans qu'il y ait la moindre indication de viol. Le fait qu'elles vivaient toutes dans un rayon de 3 km était un autre détail qui pouvait avoir son importance. Et aussi, le fait que chaque corps avait été abandonné pour qu'on le découvre, qu'il n'y avait eu aucune tentative de cacher les victimes aux yeux du monde. Cet aspect intriguait particulièrement Parrish. La psychologie criminelle était un domaine à part, mais les inspecteurs y étaient régulièrement confrontés. Parrish n'était pas profileur, mais il en savait assez pour connaître les quatre types de tueurs décrits dans les textes de référence. Un homme, ou quatre hommes différents, peu importait. Quatre filles mortes, quatre affaires en cours, trois qui dépendaient de son district et une de Richard Franco du 91e district à Williamsburg. Y avait-il la moindre possibilité qu'elles soient liées? Les pensées de Parrish furent interrompues par le téléphone.
J'ai vos résultats toxicologiques pour la jeune Lange,
l'informa la voix.
Vous êtes prêt?
Parrish attrapa un crayon, une feuille de papier. Allez-y.
On lui a admis